podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour ce débat. Alors, il y a les podcasteurs, bien sûr, les studios de création de podcasts, mais aussi les labels, dont il est plus difficile de définir le rôle exact, le fonctionnement et le modèle. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les labels proposent? Quels sont les avantages et les inconvénients à en rejoindre un? Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Eh bien, on répond à toutes ces questions et bien plus encore avec nos invités. Chez l'ACME, avec Arthur Soria, cofondateur, président, et Laura Cardieg, Head of Talent Management, Christopher Siminelli, cofondateur et CEO de Orso Media, et Julien Loisy, fondateur de Podcut. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, lorsqu'on parle de label, on pense tous à la musique. Comme pour ces derniers, les podcasts qui rejoignent un label bénéficient de tous les services pour aider le podcast à se développer le plus possible, pour la promotion, le marketing, l'audience, la régie, la monétisation. Mais en ce qui concerne la production et le contenu éditorial, c'est très différent d'un label de musique. Déjà parce que le plus souvent, le podcast existe déjà avant de rejoindre le label. Parce que le label ne paye pas pour la production, mais accompagne. Sauf quand il s'agit d'un podcast original, on en reparlera. Et surtout parce que le label n'intervient pas dans le contenu éditorial et n'est pas propriétaire du podcast. On va explorer tout ça ensemble. Et pour démarrer, est-ce que vous pouvez chacun nous dire ce qui vous a amené à créer un label, définir sa particularité et nous dire combien de podcasts il regroupe et puis nous en citer aussi quelques-uns? On va commencer avec l'ACME.
Ok, bonjour. Merci pour l'intro. Je pense que c'est assez bien pour poser les bases de la discussion. Donc moi, je suis un des trois cofondateurs de l'ACME. L'ACME, c'est un studio à l'origine. De création de podcasts. Ça fait bientôt 4 ans qu'on existe. Initialement, donc, on développait des créations originales, plus d'une cinquantaine de séries maintenant, soit en partenariat directement avec des plateformes comme Spotify, Deezer, Magellan, Cybelle, etc., soit avec des radios, des médias en tout genre, et beaucoup avec des marques. Ça, c'était notre activité fondatrice. Ensuite, on a développé une offre de médiatisation pour accompagner nos clients à la fois sur la production et la médiatisation. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on a commencé à travailler avec des créateurs de contenu, des gens qui avaient déjà leur podcast, qu'on amenait nous sur nos podcasts de brand. Et en discutant avec eux, en fait, on est parti un peu de leurs besoins et de nos discussions avec eux. On en a rencontré plus d'une cinquantaine, je pense, dans le cadre de l'étude qu'on a menée en 2022. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de besoins différents, mais que majoritairement, quand on discutait avec eux, on se rendait compte qu'il y avait un vrai souci sur comment je développe ma communauté, comment je vide ma création, comment je monétise en fait et comment je maximise mes revenus autour de mon podcast. Et donc on a développé une offre de label qui est à la fois sur ses pans, marketing on va dire, développement de communauté sur la partie monétisation, mais pas que, parce que je pense qu'il y a aussi, mais comme dans tout créateur de contenu, un enjeu d'accompagnement qui peut être sur de l'éditorial, un enjeu d'accompagnement humain, on est souvent assez seul quand on crée son podcast, un enjeu qui peut être du support à la production, nous on a une expertise là-dessus qu'on met au service, un savoir-faire qu'on met au service en fait des talents du label. Et en fait, ce qu'on fait dans la façon dont on accompagne les podcasteurs, c'est qu'on fait d'abord un état des lieux sur quels sont leurs besoins, comment on peut les aider à se développer. On réfléchit si on est les meilleurs, les mieux placés aussi, ça on y reviendra sur les thématiques qu'on traite et les thématiques qu'on traite moins, si on est les mieux placés pour les accompagner et les amener là où ils veulent. Et pour citer quelques podcasts qui font partie du label, on a une quinzaine de créateurs maintenant, ça représente 18 podcasts, il y en a qui en ont plusieurs. Ça représente un peu plus d'un million d'écoutes chaque mois et on travaille avec différents podcasts comme Neurosapiens, La vie partout, Night Confession, je vais en oublier, Où est le beau, une quinzaine, donc je vais en oublier.
On les voit tous, il y a les visuels juste
et on les voit juste en haut, parfait.
Et je vous propose d'ailleurs tout de suite d'en écouter quelques-uns, un petit
génial,
extrait.
Juste avant peut-être, je vais juste présenter Laura après qui va parler et qui est la directrice du label. Et qui va pouvoir revenir sur des cas très concrets, en fait, sur les podcasts que vous allez écouter, sur comment on les a accompagnés, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être accompagné par un label, dans les faits. Voilà.
C'est bien, il me fait ma transition. On écoute.
Pour comprendre à quoi servent les punaises de lit, il faut d'abord comprendre ce qu'est un parasite. Déjà, il faut être deux pour faire un parasite. D'un côté, l'espèce dite hôte, et de l'autre côté, l'espèce appelée parasite, qui va vivre aux dépens de l'hôte. Jusque-là, globalement, je ne vous apprends rien, mais figurez-vous que les parasites sont bien plus nombreux que vous l'imaginez. C'est bien simple, une espèce sur deux vivant sur notre planète est un parasite.
Salut, c'est Anaïs de Neurosapiens, et il y a quelques jours, j'ai envoyé ce message à Thomas Messias de Mansplaining. Salut Thomas, c'est Anaïs du podcast Neurosapiens. Je sais pas si tu connais, c'est un podcast qui parle du fonctionnement du cerveau au quotidien, de comment il peut nous tromper et nous accompagner dans notre vie. Bref, je te contacte parce que j'étais à une soirée la semaine dernière et je discutais avec un pote de sujets autour de la sexualité comme la libido, l'orgasme homme-femme ou encore la pornographie. Et à un moment donné, mon pote m'a parlé de ton podcast, Mansplaining, de ton approche sociologique de la masculinité et de tous ces sujets un peu clivants. Du coup, si t'es ok pour discuter, j'aimerais bien avoir ton point de vue et tes lumières sur ces sujets liés à la sexualité. Il m'a répondu, et voici la suite de nos échanges.
Bonjour les 90s et bienvenue déjà dans ce deuxième épisode de Lundredi. En ce beau lundi, on se retrouve à nouveau pour décompresser ensemble. On va prendre un peu de temps pour papoter. C'est la petite minute, ou en tout cas les petites minutes, pour nous tous. Et toutes. Alors d'abord les red flags, puis sont venus les green flags et maintenant nous avons les beige flags. On ira se demander, what is going on? En reprenant une des voix que vous connaissez très bien sûrement sur un audio de TikTok. Mais alors un beige flag, qu'est-ce que c'est d'abord? Dans sa définition première de ce nouveau terme qui est apparu sur les réseaux sociaux, le beige flag indiquerait en fait qu'une personne n'a pas passé énormément de temps à créer son profil ou que ce serait une personne très ennuyeuse, avec une personnalité très plate. Et si jamais vous êtes malchanceux ou malchanceuse, ça peut être un mélange des deux.
Alors, on vient d'écouter trois extraits de podcasts qui sont sur votre label. Il y avait Neurosapiens, La vie partout et Night Confession. Laura, je te laisse nous raconter qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour accompagner ces trois podcasts.
Oui, alors on a choisi ces trois podcasts pas par hasard. Arthur en a parlé. Donc la vocation du label Lacmé, c'est vraiment de développer, d'accompagner et de monétiser nos podcasts. Typiquement, quand on parle de développement, je pense naturellement à Neurosapiens que vous venez d'écouter. C'est-à-dire nous, et pour la petite histoire, c'est la première à nous avoir fait confiance et on la remercie. Anaïs, quand elle nous a rejoint, il y avait un vrai enjeu sur comment développer ses audiences. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Ce qu'on a mis en place, c'est que tout d'abord, on a créé un nouveau format qui s'appelle Les Actions, qui a un format beaucoup plus activable, un peu plus court, qui lui a permis de sortir beaucoup plus régulièrement, et aussi de créer un partenariat, comme vous avez entendu, avec Mansplaining, le podcast de Slate. Et ça lui a permis notamment de doubler ses audiences. Vous avez entendu également Night Confessions, elle c'est plutôt sur la partie accompagnement qu'on l'a mis en exemple. Manon, quand je l'ai rencontrée, donc c'est une personne qui vient de YouTube, d'Instagram, elle est connue surtout pour ça. L'an dernier, quand elle a lancé son podcast, c'était avec une volonté de développer autrement son audience, sa médiatisation, et elle arrive au bout d'un an à me dire je sais pas en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai réussi à avoir cette audience, à amener mon audience de YouTube sur le podcast. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je dis, ok, mais qu'est-ce que tu as envie? Enfin, quel est l'épisode de rêve que tu voudrais? Et là, elle me sort, très naturellement, très Manon, si vous la connaissez, moi, ce que je veux, c'est Queen Bee. Je dis, alors Manon, on va peut-être, avant d'avoir Beyoncé, déjà se poser la question de comment on développe le podcast sur des sujets liés à la musique. Et en fait, Manon, elle travaille déjà avec certains festivals pour sa partie influence. Et très naturellement, on se dit, mais pourquoi Night Confessions n'irait pas chercher les confessions des artistes? Et c'est comme ça qu'à partir de novembre, vous pourrez découvrir Manon sur un format où elle ira chercher justement les confessions d'artistes qu'on fait en collaboration avec Sony Music. Donc c'est ça aussi le label Lacmé, c'est aller chercher, par rapport aux ambitions de nos talents, aller chercher les partenariats, mais aussi peut-être les projets éditoriaux qui leur correspondent. Et je pense que vous avez dû être un peu surpris de La Vie Partout, qui d'ailleurs est à 18h après une table ronde. La Vie Partout, c'est un podcast sur le vivant, créé par Quentin Travaillé. Et Quentin, bon, je pense qu'on vous l'a très bien entendu sur les punaises de lit, c'était un peu notre sujet des dernières semaines. Et on s'est dit, bon, avant de lancer la nouvelle saison, ce serait intéressant, Quentin, que tu fasses un épisode sur à quoi ça sert, les punaises de lit. Et donc ça a permis forcément de créer un petit pic d'audience avant la sortie de sa nouvelle saison qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Et aussi avec Quentin, donc ce qu'on voulait emphaser en mettant cet exemple, c'est l'aspect de monétisation et surtout de diversification. C'est-à-dire qu'on croit que nos podcasteurs, on les entend comme des talents, au sens où je pense que tous les podcasteurs indépendants qui sont dans cette salle ici savent qu'ils ne sont pas seulement podcasteurs, ils sont aussi ingé son, ils sont aussi journalistes parfois, intervieweurs, ils sont aussi produits marketing. Et typiquement, Quentin, il a un vrai don pour l'écriture Et quand on a rentré au studio Lacmé une proposition d'une plateforme pour créer une série inédite sur le vivant, très naturellement, le studio s'est tourné vers le label en disant « Ok, je pense que Quentin, c'est la personne la mieux placée pour ce sujet. » Et aussi, Quentin, quand vous le verrez à 18h, vous verrez que c'est une bête de scène et on cherche à développer en permanence le podcast en dehors des flux. Et c'est comme ça qu'on s'est associé à Diligence, qui est une agence aujourd'hui qui fait des podcasts, enfin des spectacles autour des podcasts. Et Quentin, il sera sur scène le 11 décembre au Théâtre Le Pic. Et ça, c'est Lacmé qui l'accompagne dans ses démarches. On accompagne aussi d'autres de podcasteurs là-dessus, typiquement Business of Bouffe, Où est le beau, ceci est ton corps. On les accompagne vraiment, on cherche à les développer et à monétiser leurs audiences sur ces sujets.
Alors, chez Orso Media, par rapport à ce qu'on vient d'entendre chez Lacmé, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des points de convergence?
Bonjour à tous, déjà. Non, il y a beaucoup de points de convergence. C'est aussi pour ça qu'on se définit un peu tous ici comme des labels. Tu faisais le parallèle avec la musique. Moi, j'aime bien dire que, effectivement, on travaille avec les podcasteurs comme un label travaille avec des artistes ou des groupes. C'est-à-dire qu'ils restent propriétaires de leur contenu. Eux, ils sont en charge d'avoir la meilleure approche artistique possible. Et nous, on gère tout le reste. C'est quoi le reste? C'est comment tu génères des revenus avec ton podcast, comment tu développes ton audience et comment tu t'étends au-delà du podcast et que tu installes, tu crées une véritable marque média à part entière. Et donc, on les accompagne sur d'autres supports qui peuvent être TikTok, YouTube, une newsletter, leur présence sur LinkedIn, partout, enfin à chaque fois que c'est cohérent, pertinent. Donc, on les accompagne beaucoup là-dedans. Et le modèle du label, il est assez vertueux, je pense, pour les podcasteurs, parce qu'il doit y avoir beaucoup de podcasteurs là en face de nous. Vous savez que avec votre podcast, même si vous faites des audiences importantes, vous n'avez aujourd'hui sans doute pas les moyens de vous payer un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur artistique, une personne chargée des événements, de votre promotion. Nous, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met un peu toutes ces compétences qu'on a internalisées chez Orso Media, on les met au profit des podcasteurs avec lesquels on bosse. Vous en connaissez certains, Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie, Richissime, Delphine Pinon... Je ne sais pas si on les voit,
oui.
Entreprendre dans la mode. Vous l'avez compris, nos sujets, c'est peut-être aussi comme ça qu'on se distingue de Lacmé et de Podcut. On a fait le choix de nous spécialiser dans deux univers très précis, qui sont ceux de l'entrepreneuriat, enfin le monde de l'entreprise au sens large et des finances personnelles. Moi, j'étais patron de BFM Business. Mathieu, Génération Do It Yourself, qui parle beaucoup à des entrepreneurs. Donc, c'est des sujets qu'on aime bien, qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur. Et on avait remarqué, et c'est un peu pour répondre à ta première question sur la genèse d'Orso Media, je remarquais un engouement assez fabuleux de la creator economy sur ces sujets-là, notamment aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. En France, c'était un peu plus lent. Il y a plein de podcasteurs de talent, mais qui avaient un peu du mal à dépasser ce plafond de verre en termes d'audience, de revenus, de notoriété. Et on s'est dit, c'est dommage parce qu'il y a un gros potentiel. Et donc, on s'est inspiré de ce qu'a créé Mathieu avec Génération Do It Yourself depuis 2017 pour le transposer à d'autres podcasteurs. Pour la petite histoire, quand on a commencé à parler d'Orso Media avec Matt, qui est un pote et qu'on se connaît depuis plusieurs années, mais je n'avais pas forcément conscience à l'époque des chiffres de Génération Do It Yourself. Nous, on est hyper transparent sur les chiffres, demandez-moi ce que vous voulez. Il faisait à l'époque 300 000 écoutes par mois, 220 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est déjà énorme. Enfin, moi, chez BFM Business... on était 150, Génération Do It Yourself, c'était deux personnes, Mathieu et sa productrice, donc assez fabuleux, et avec évidemment tout ce que ça entraîne en termes de rapidité, de réactivité sur le marché, de créativité, qu'on n'a pas forcément dans des grands groupes médias avec des vieux réflexes, des organisations, des grosses machines. Donc ça, je trouvais ça fabuleux de pouvoir faire du média, ce que j'aime, avec des créateurs de contenu, avec lesquels on partage énormément de valeurs, une façon de travailler, une façon de penser, une ambition. C'est aussi pour ça qu'on se définit comme un label. On n'a pas vocation à travailler avec tous les podcasteurs du marché, mais avec des podcasteurs avec lesquels on partage un peu tout ça, quoi. Une vision, une façon de travailler, une façon de penser. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Mais...
On va écouter peut-être le label
Orso
Media. Donc, c'est aujourd'hui 24 podcasts, dont des productions originales.
Yes.
Ouais. On va en parler aussi tout à l'heure. On écoute.
Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
Moi, je suis un auteur, de club du terrain. C'est-à-dire que je vais... Il y en a peu dans ma génération. C'est plutôt la nouvelle génération qui fait ça. Moi, quand j'ai une idée, je vais le soir au Paname ou au Fridge, qui sont les deux comédie clubs, on va dire, les plus où il se passe le plus de choses à Paris.
Ils t'appartiennent pas, hein, qui sont... Non, bon, rien à voir.
Non.
Tu débarques comme tous les autres, tu fais la queue et tout.
Je fais pas la queue. Ah, c'est bien. Je viens, je fais ce que les Américains appellent un « drop-in ». C'est-à-dire que tu viens et comme t'es connu, eh ben on te fait la faveur de te faire passer dès que t'arrives comme tu veux. J'essaye de pas non plus dégager trop de monde avec la durée. Non, t'es pas annoncé. J'essaye de pas faire trop long parce que c'est pas cool, parce qu'il y a des jeunes qui viennent roder leur sketch et que si tu fais trop long, bah ça rentre plus dans le show et puis il y en a qui sautent. Tu vois, on a encore un peu d'humanité en France. Aux États-Unis, ils n'en ont rien à foutre.
Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. Bonne écoute.
Je me retrouve à présenter le projet Issemiyake. J'arrive du Japon, enfin j'arrive de France, je suis au Japon. On m'amène en bas de la galerie, enfin ça s'appelait MDSG Gallery. Enfin de... Et puis j'entre dans une pièce qui ressemblait un peu à une chapelle derrière. Il s'est mis à quai, il y avait une grande, grande œuvre qui était, je m'en rappelle, comme étant un grand cercle. Donc il y avait un côté un peu religieux, si on veut. Puis on me met à côté de lui, et puis je me rends compte qu'il parle très bien français. Et puis je lui montre tout le projet, il écoute, il regarde, il dit oui. Et puis il termine en disant, ça me plaît beaucoup, c'est ça qu'on devrait faire, et puis il quitte la pièce.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de New Work City. Vous avez compris, en août, on fait un peu des focus sur des métiers, et ici, vous le savez, j'ai Laurel et Hardy, j'ai Tom Tom et Nana, j'ai, tenez-moi des duos célèbres, Tic et Tac, j'ai...
Bonnie and Clyde,
si tu préfères.
Ouais, c'est pas mal.
Ou enfin, le fameux Charlie et Lulu qui est resté dans la gorge de Pierre. Tu sais toujours pas qui c'est, Charlie et Lulu, je suis sûre.
Non, toujours pas.
D'accord, le Hit Machine, tout ça, je connais pas.
Déjà, pour avoir un peu une idée, vous faites passer combien d'entretiens par an chacun?
Alors.
En moyenne,
moi j'en vois une vingtaine, mais moi j'en vois beaucoup moins qu'avant.
Ouais.
Les grandes années, j'en voyais 35, 40
T'en vois moins qu'avant parce que tu fais appel à des chasseurs de tête qui donc eux...
Parce que moi j'ai des recruteurs aujourd'hui qui s'occupent de ça et pour moi me dégager du temps sur d'autres choses.
Donc tu les vois à la fin du process, donc c'est
exactement
pour ça que t'en vois
moins. Exactement.
Alors je te laisse nous présenter les trois podcasts qu'on vient d'écouter et puis nous expliquer comment Orso Media les a accompagnés.
Ouais, écoute, le premier c'est Génération du Tour Self, vous l'avez reconnu sans doute. Qui a reconnu Gad Elmaleh? Parce que
fallait pas donner la réponse tout de suite.
Bah c'est pour rien, je la donne. Donc c'était Gad Elmaleh, hyper intéressant parce que bon, on peut se dire que Génération du Tour Self c'est un podcast qui s'adresse avant tout aux entrepreneurs, mais nous on considère l'entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire entreprendre, c'est aussi entreprendre un projet culturel, artistique, sportif. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs. Je vous invite à écouter cet épisode qui est très cool avec Gad. Comment on a aidé Matt à se développer? Donc quand on commence à discuter, il fait 350 000 écoutes. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui c'est 850 000 écoutes par mois. Donc c'est quand même devenu assez huge. Alors je pense qu'on a une part dans ce succès aussi, même si la plupart revient du succès, du mérite revient à Mathieu et son équipe bien sûr. Mais voilà, on a vraiment réussi à diversifier Mathieu, qui ne faisait que des événements, que des podcasts à l'époque. Et depuis le lancement d'Orso Media, on a créé une série d'événements qui s'appelle les GDI Live, Génération Do It Live, qui sont des after-work où on réunit une partie de la communauté de Génération Do It Yourself autour de sujets de l'entrepreneuriat. C'est des moments avec beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges. On boit des coups à la fin, voilà, c'est hyper sympa, ça coche pas mal de cases. Ça lui permet de rencontrer sa communauté, de faire de la vidéo et d'être présent physiquement et de faire d'autres choses aussi avec les marques et les sponsors. Donc voilà, ça c'est une des façons qu'on a eu de travailler avec Mathieu. Le deuxième, c'est Entreprendre dans la mode, Adrien Garcia, qui a changé de nom cet été, qui s'appelle maintenant The Bold Way. Donc nous, on l'a pas mal accompagné dans ce rebranding. C'est quand même pas évident de changer totalement le nom d'un podcast. Donc on a été à ses côtés pour pour le faire en douceur, avec des campagnes de cross-promo pour accompagner ce rebranding qui se passe super bien, parce qu'on n'a perdu aucun auditeur. On continue d'en gagner. Adrien a voulu changer de nom parce que ses sujets allaient bien au-delà du secteur de la mode et c'était plus sur les industries créatives au sens large, d'où ce changement de nom. Et puis enfin, New Work City, c'est une création originale Orso Media, parce qu'effectivement, on a développé une petite activité studio.
On en a quatre.
Et donc, New Work City, vous apprécierez le jeu de mots. Pourquoi on a créé ce podcast? C'est que, donc moi, j'étais chez BFM Business, je connais pas mal les médias B2B, et toutes les émissions dédiées aux RH sont franchement super boring. C'est toujours des DRH qui viennent te raconter à quel point leur boîte est géniale, leurs salariés sont heureux et qu'ils ont fait des super actions avec telle ONG. Bon, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as des choses qui ne sont pas prévues dans le code du travail, qui ne sont pas prévues dans le règlement intérieur des boîtes. Il se passe quoi quand tu as un collaborateur qui change de sexe? Il se passe quoi quand tu as un collaborateur qui a une hygiène chelou? On l'a tous connu. Et donc, c'est vraiment ces sujets-là qu'on a voulu explorer, traiter à la fois avec des professionnels des RH, des collaborateurs, des managers, et donner des clés à nos auditeurs sur voilà, comment réagir, comment bien réagir dans ces situations exceptionnelles.
Et alors enfin, une approche totalement différente chez Podcut. Vous définissez plus comme un label, comme un collectif qu'un label. Je te laisse nous raconter, Julien, l'histoire de Podcut et ce que vous faites.
Ok, bonjour à toutes et tous. Donc Podcut, ça a été fondé en 2018. Mais la genèse remonte peut-être une année avant. En fait, on était plusieurs podcasteurs indépendants à faire du podcast dans notre coin. Et super, ça s'affiche. Et en fait, à un moment, on s'est dit, si on mutualisait les choses qu'on utilise tous, c'est-à-dire l'hébergement, le graphisme, le montage, le matos. Et on est parti comme ça à 6. On est monté, à un moment, on a ouvert les vannes pour recevoir plein de projets qui voulaient être accompagnés dans ce collectif. Donc on est monté à 24, là on est redescendu à 14, c'est un peu plus gérable pour nous. Et on se définit comme un collectif au sens, comme tu l'as dit dans ton intro, de maison de disques ou enfin, dans le monde de la musique, c'est que nous on n'intervient pas du tout dans l'éditorial. On est là vraiment pour accompagner les gens à produire du podcast. Donc là on est un peu différent des autres labels, c'est que nous on n'en vit pas, c'est pas notre projet. Ça nous arrive de faire de l'argent avec du podcast, mais on se paye pas. Le but, c'est vraiment de produire du contenu parce qu'on est avant tout des gens qui aimons ce média-là. Donc, si on avait une identité chez nous, chez Podcut, c'est qu'on va faire des podcasts sur des sujets de niche parce qu'on prend des gens qui sont très passionnés et souvent très passionnants dans leur domaine et on les accompagne. Donc, ça peut être souvent des projets qui ont déjà démarré et on va les aider à développer un petit peu leur audience, à rafraîchir leur image, à leur donner des conseils, souvent sur l'audio, parce que le podcast, c'est un média qui se consomme essentiellement avec les oreilles. Donc, d'avoir des mauvais micros, des mauvais montages, il n'y a personne qui aime ça. Et ça freine les gens à écouter vos épisodes. Et après, de par nos métiers, donc je co-gère le label avec Émilie Flotto. Elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est réseaux sociaux, puisqu'elle fait du community management dans sa vie professionnelle. Moi, je travaille en banque, donc rien à voir. J'aide pas à financer les podcasts. Par contre, je bosse aussi pas mal dans la data. Donc du coup, moi, j'adore jouer avec les data, ce que je trouve sur les réseaux, des écoutes, pour essayer de voir les choses qui marchent, qui marchent pas, et développer les audiences d'un point de vue un petit peu plus technologique.
Combien de podcasts chez Podcut?
Alors, on a 14 émissions, 14 podcasts, et après on a un flux documentaire et un flux de fiction, et on en sort un à deux par année.
On écoute quelques extraits.
Merci.
Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la première partie de la story de la plus regardée des chaînes d'Europe, TF1. De ses premières années, à leur chaîne publique, à l'incroyable feuilleton de sa privatisation, à la fin des années 80. Entre mai 2021 et septembre 2022, ce fut l'événement qui a agité la planète média, la fusion TF1-M6. Les deux grands groupes des principales chaînes privées du PAF devaient fusionner pour créer un géant des médias, avec pour but affiché de mieux résister face aux plateformes type Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Mais les conditions exigées par l'autorité de la concurrence eurent raison de cet accord. Les groupes TF1 et M6 décidèrent d'abandonner leur projet de fusion. une fusion sur laquelle TF1 misait beaucoup et qui aurait pu être le deuxième grand bouleversement de son histoire, après celui de sa privatisation. Justement, pourquoi la Une a été privatisée et à quoi ressemblait-elle quand elle était publique? Réponse tout de suite.
Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. On se retrouve pour un nouvel épisode et l'équipe est au complet. On se retrouve cette semaine, ce mois-ci, pour parler du croque-mitaine dans cet épisode 59. Et on va laisser la parole à Aymeric pour nous présenter le livre.
Tout à fait. Alors comme t'as spoilé, ce qu'on faisait, je peux pas faire ma blague sur la famille des clubs sandwich toastés, avec le croque-madame, le croque-monsieur, et celui qui fait le plus peur, le croque-mitaine.
Est-ce que t'as tapé croque-mitaine sur Marmiton pour voir s'il y a un truc qui sortait?
Non, j'ai pas tenté.
Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de souffler, mais jamais, au grand jamais, du docteur, parce qu'il est toujours mort.
Il est mort.
De plus en plus mort à chaque nouvel épisode
le docteur,
que l'on regarde.
Il est mort.
Format, de quoi qu'on parle ce coup-ci?
Oh là là, aujourd'hui nous allons rencontrer des Daleks, puisque nous allons à l'asile des Daleks, Asylum of the Dalek en anglais. Il est sorti le 1er septembre 2012 au Royaume-Uni et le 25 mai 2013 en France. Un petit synopsis rapide, les Daleks et le docteur, vous avez 3 heures.
Effectivement, synopsis rapide. Ok, très bien.
Et il y a un point commun aussi qu'on va évoquer, puisque tu m'en as parlé en préparation de cet entretien, c'est que vous faites tous les trois du live. Toi aussi, c'est le cas, podcast, une fois par an?
Une fois par an, on fait du live. On est même déjà venu ici au Paris Podcast Festival faire un live avec le Roi Steven. Je suis désolé, hein. Ça fait 6 ans que je fais le podcast du Roi Steven, je ne sais toujours pas prononcer son prénom en anglais correctement. Stephen King. Et sinon, oui, on fait des lives, on essaye de réunir. C'est une des choses qui est vraiment utile quand vous êtes dans un collectif, c'est de vous sortir un petit peu de votre solitude et de vous emmener à Paris pour que vous puissiez faire du live. Faire vraiment un podcast en live, c'est une expérience que j'encourage tout le monde à faire au moins une fois dans sa vie, si vous faites du podcast, parce que d'avoir le retour en direct de vos auditeurices, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Et voilà.
Et le live, donc, se développe aussi avec entrée payante. Vous en faites tous de plus en plus. C'est quand même, ça s'est énormément développé, vous aussi, chez Lacmé Orso.
Moi, je précise, typiquement, là, les événements auxquels on faisait référence, qu'on va organiser, pour le coup, on a fait des enregistrements live, mais là, pour le coup, on demande aux créateurs de ne pas faire un épisode enregistré. C'est pas enregistré, c'est un espèce de contenu supplémentaire et ouais. On l'amène vraiment et on tente l'expérience là sur 2 premières soirées. On va voir ce que ça donne. Et justement, pour aller chercher dans cette logique de penser les podcasteurs, pas que comme des podcasteurs, mais comme des créateurs à part entière et qu'ils imaginent une pièce dérivée de leur podcast. Par contre, les enregistrements live, on le fait moins en payant, mais nous, on le vend plutôt dans le cadre des offres qu'on propose à nos partenaires annonceurs. Généralement, je pense qu'il y a peu... Là, je parlais plus réalité économique, mais on a besoin des partenaires annonceurs pour faire vivre la création. On peut vendre évidemment des campagnes uniquement sur l'audio, mais je pense qu'il faut toujours le penser, et c'est toujours plus... ça fonctionne mieux quand on le pense en 360, quand on pense évidemment aux réseaux sociaux, s'il y a des réseaux sociaux, et quand on propose type un enregistrement live ou une séance d'écoute collective suivie d'un débat en live dans l'entreprise pour ses partenaires, ses employés. Et c'est plus quelque chose qu'on va développer nous de cette manière-là. Et voilà, et après on a ces spectacles qui arrivent.
Toi, c'est de l'enregistrement live ou c'est une formule encore à part?
Non, c'est du live, on branche des micros et on fait notre épisode en live.
Ok, et on peut l'écouter après.
Et on peut l'écouter après.
Et chez Orso?
Alors on a des discussions en ce moment avec quelques producteurs pour faire des lives sur certains de nos podcasts. On ne l'a pas fait encore, en tout cas pas sous cette forme. Voilà, on y réfléchit fortement, mais on n'en a pas fait encore.
Alors, on a bien compris les nombreux avantages à rejoindre vos différents labels, mais on n'a pas parlé des contreparties pour les podcasteurs. Qui est-ce qui s'y colle en premier? Lacmé, Orso, allez.
Ouais, nous, c'est ultra simple. Ça ne coûte rien aux podcasteurs d'être chez nous. On considère que c'est une forme d'investissement qu'on fait sur eux. et on récupère une commission sur tout le chiffre d'affaires qu'on génère pour nos podcasteurs. C'est une flat tax, 30%, voilà, quel que soit le podcasteur qui fasse 50 000 ou 850 000 écoutes, vous voyez de qui je parle. C'est important pour nous de loger tous les podcasteurs à la même enseigne. Ce fonctionnement, il est assez vertueux pour nous parce que ça nous permet, ça montre aux podcasteurs notre engagement aussi à le développer, développer son chiffre d'affaires, etc. C'est une contrainte aussi parce que on va plutôt travailler avec des podcasteurs qui ont un potentiel business, si je puis dire, important, ou en tout cas suffisant pour amortir les coûts d'investissement que nous, on va mettre sur eux, que ce soit en prospection commerciale, en temps passé, en conseil. On prend en charge aussi l'hébergement de tous les podcasts qui sont chez nous, chez Audiomins, que je salue. C'est un super, super hébergeur. Je ne suis pas payé pour le dire, mais vraiment, ils sont super. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 12 derniers mois, on a reversé quasiment 1 million d'euros à nos 24 podcasteurs. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui est bon en maths
Comment ?
Qu'est-ce qui est bon en maths pour savoir ce que ça représente à peu près pour chacun ?
C'est assez simple. C'est assez simple. Donc voilà, ça ne coûte rien. Ça coûte... nous, la valeur la plus forte avec nos podcasteurs, c'est vraiment l'engagement et les affinités qu'on peut avoir avec eux. Voilà.
Chez Lacmé ?
Alors, chez Lacmé, on a deux offres, deux types d'accompagnement, un peu en fonction des besoins du créateur. On a une offre qui est plutôt sur juste de la développement de monétisation. Et dans ces cas-là, c'est des pourcentages similaires. Mais c'est surtout, la différence, elle va jouer surtout sur l'exclusivité ou non. Lorsqu'on est en non-exclusif, dans ces cas-là, on va pouvoir ramener, on va prendre une commission aussi sur tout ce qu'on ramène, les 30%. Et dans ces cas-là, entre guillemets, il n'y a pas tout notre accompagnement avec le talent management, le développement d'audience, etc. On est plus sur une logique où on va réfléchir à comment développer la monétisation autour du podcast. Encore une fois, par contre, toujours avec cette logique de diversification et autres. Ensuite, on a une offre en exclusivité cette fois, où là, c'est plus, entre guillemets, là où on pense qu'il y a la vraie valeur du label. C'est là où on accompagne avec le talent management, avec l'accompagnement de Laura et de l'équipe qui est en train de s'agrandir et où on va passer du temps avec chacun des créateurs à réfléchir à son flux, à réfléchir à comment développer sa communauté, à investir même, parfois il nous est arrivé d'avancer, on ne le fait pas systématiquement, on regarde, mais d'avancer des frais de mix, d'avancer des frais d'écriture qu'on après on recoupe bien sûr sur les premières opérations avec des annonceurs qu'on vend derrière. Voilà à peu près.
Et chez Podcut, c'est pas forcément des contreparties financières, on l'a compris. Mais par contre, il y a aussi des critères dans les signatures sonores aussi qui vont lier tous les...
Exactement. Nous, on leur demande juste de parler du label dans leur émission, de parler de notre Patreon, parce que c'est une de nos sources principales de financement, et d'utiliser une virgule sonore, effectivement, à eux de l'ajouter s'ils veulent au début, en fin, au milieu de podcast, pour marquer le fait qu'à l'oreille, ils sont dans le label Podcut.
Et la grande question que de nombreux podcasteurs dans la salle se posent, comment on fait pour rejoindre votre label? Quels sont les critères? Comment est-ce qu'on s'y prend?
Alors nous, au niveau du recrutement, on fait ça en deux étapes. Une première qui est vraiment la voix du cœur / de l'oreille. C'est à la différence typiquement d'Orso Media ou de Podcut. Nous, pour le moment, on n'a pas une thématique précise. Et du coup, c'est comme ça, on se dit, OK, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous parle? Et surtout, et je viens à la deuxième étape, est-ce qu'on est les meilleures personnes pour accompagner ce talent? Typiquement, si demain, vous avez un podcast axé très business, on n'est pas forcément les meilleurs pour vous accompagner. Dans ces cas-là, on les renverra avec grand plaisir chez Orso Media. Mais si vous avez des thématiques comme on a liées au vivant, liées à une passion vraiment qui vient de vous, dans ces cas-là, on sera peut-être les meilleurs à vous accompagner.
Je fais juste une petite précision. Même chose, il y a d'autres labels qui existent. Il y a Tout Savoir, podcast sur label sur l'éducation, on va dire. Ou de la même manière, on vous renverra plutôt vers Tout Savoir si vous venez nous voir. On ne fait pas quand même, je le précise, dans les thématiques. C'est pas, on n'a pas des thématiques très définies, mais on ne fait pas toutes les thématiques business. Je pense que Orso le fait très bien et on n'a pas vocation. Et surtout, on regarde un petit peu par rapport. On est un studio à l'origine, donc on a regardé aussi par rapport aux annonceurs avec lesquels on a déjà travaillé, aux marques avec lesquelles on a déjà travaillé, aux thématiques qu'on a déjà traitées. Là, on a une vraie valeur ajoutée. Et après, deuxième chose importante, au début, on pensait vachement en thématique au lancement du label. OK, il nous faut des gens dans le sport, ce serait bien si on avait un créateur, etc. Et en fait, de plus en plus, maintenant qu'on a nos 15 créateurs,
on se rend compte qu'on pense plus en termes d'audience. On se demande les différentes audiences qu'on a. Et en fait, on se dit que là, pour le coup, contrairement à la musique, enfin même si la musique, c'est vrai aussi, une audience qui écoute le podcast Night Confession va peut-être être potentiellement intéressée par aussi une thématique autour du sport. Et donc, en fait, on a plutôt catégorisé maintenant nos podcasts, certes par thématique, mais aussi par typologie d'audience, et parce que c'est ce que nous demandent après les marques annonceurs.
Et l'audience, est-ce que c'est un critère aussi pour rejoindre votre label ? Est-ce que quand on a un podcast et qu'on vous le soumet, il faut une certaine audience pour être accepté par le label ?
C'est intéressant parce qu'au début, on a voulu se mettre un espèce de plancher en se disant en dessous, on prend pas. Et en fait, on l'a pas mis en place parce qu'on a rencontré des créateurs qui venaient de se lancer, qui avaient déjà des statistiques assez intéressantes. Mais surtout, ce qu'on va regarder, c'est à la fois, c'est ce que disait la première étape du recrutement, c'est l'originalité du sujet, de l'écriture, du ton, de l'approche, est-ce que ça nous parle, est-ce que c'est en cohérence avec nos valeurs et le type de production qu'on a l'habitude de faire. Et on va regarder quand même après la communauté qu'il y a derrière et l'engagement qu'il y a. Mais ça peut être une petite communauté.
C'est quoi une petite communauté pour vous ? Soyons très concrets pour les personnes qui sont dans la salle.
Bah, il y a typiquement la vie partout. Je pense quand il nous a rejoint, il avait une jolie communauté Instagram, mais qui s'est largement développée depuis. Mais sur son premier épisode, je pense qu'il avait fait 5000 écoutes ou 8000 écoutes, quelque chose comme ça. Alors qu'au début on s'était dit bon, on prendra pas les gens en dessous de 50 000 écoutes par mois, des choses comme ça, et en fait petit à petit on se rend compte que, et ça se trouve on prendra plus bas, ça se trouve plus haut, on y va pour le coup, on pilote en regardant à partir des dossiers qu'on reçoit, mais on va jouer vraiment aussi sur le potentiel qu'on voit au-delà de les statistiques déjà réalisées, parce que je pense que à l'inverse, les podcasts qui sont déjà très développés, et ben on a un peu moins à leur apporter en fait, et donc c'est aussi peut-être pas nous les mieux placés pour les accompagner dans leur développement.
J'entends Podcut qui rigole dans mon oreille. Julien, toi t'as gloussé un peu sur les audiences, est-ce que c'est un critère chez vous ?
Non, j'ai gloussé parce que jamais on aura un podcast qui fera 50 000
mais tu ne sais pas. Ça se trouve
mais non, nous c'est pas un critère. Non, nous c'est plutôt des critères de bah, est-ce que t'en as déjà fait, enfin, quelqu'un qui va venir nous voir mais qui a même pas, qui n'a jamais enregistré un épisode de podcast, on va dire bah, déjà travaille ton concept de ton côté et reviens nous voir après. Quoi. Mais,
parce que ce n'est pas forcément des podcasts existants qui viennent chez vous.
Non, je suppose que vous aussi, vous recevez des mails tous les jours de gens qui ont un projet, qui veulent. On l'a fait une seule fois, c'était un cas très particulier, c'était une journaliste qui partait en stage en Colombie et qui voulait faire un documentaire sur le féminisme en Colombie. Et là-dessus, on a dit banco. Mais c'est la seule fois, ça s'appelle Beraka, c'est toujours en ligne. Mais sinon, non, parce que c'est beaucoup trop de travail. Et on ne sait pas si la personne en face va vraiment s'engager à produire le contenu pour lequel elle postule. Parce que le truc le plus compliqué dans le podcast, c'est la régularité. Quoi. C'est si vous engagez à faire une hebdo, il faut vraiment le sortir. Pratiquement 52 épisodes par an, et c'est du boulot. Quoi. Et les gens qui n'ont jamais fait de podcast, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent que c'est moins de boulot qu'une vidéo, parce qu'il y a... entre guillemets, que le son, mais faut quand même écrire, préparer. Il y a tout un travail préparatoire qui existe aussi, que ce soit de l'audio ou de la vidéo.
Et quels sont les autres critères pour rejoindre Podcut ?
Il n'y a pas tant de critères que ça. Quoi. Généralement, on fait des sessions une fois par an de recrutement. On met en place un formulaire et puis c'est juste, on demande effectivement ce que les gens attendent aussi à nous rejoindre. Parce que comme vous dites, c'est très important d'être aligné sur ce que nous, on peut vous apporter et ce que vous attendez d'un label. Parce que sinon, ça ne va pas le faire et on va tous perdre du temps.
C'est quand la prochaine campagne de recrutement ?
Fin d'année.
Mm-hmm. Et chez Orso Media ?
Premier critère, il faut être sympa. Nous, déjà, on travaille qu'avec des gens sympas. On leur parle tous les jours, donc j'estime que c'est un critère hyper important. Non, après, les autres, plus sérieusement, évidemment, la thématique. Il faut que ce soit dans nos thématiques. Pourquoi on est attaché à ces deux thématiques ? C'est aussi pour une logique stratégique, organisationnelle. On a accès à un vivier de sponsors avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute quasiment tous les jours. On les connaît bien, on a tissé des relations. C'est long de tisser des relations avec des sponsors. Si vous venez nous proposer un podcast de sport, même s'il est génial et qui fait beaucoup d'écoute, nous, on discute avec très peu de sponsors dans le sport. Donc, c'est-à-dire qu'on repart de zéro, plus de temps de prospection, etc. Donc, c'est déjà pour cette raison. Sur l'audience, on n'a pas vraiment de plancher, mais on se dit qu'en dessous de 30, 35 000 écoutes par mois,
Pour nous, on n'aura pas forcément un point d'équilibre facile à trouver pour nous. Après, il y a des exceptions. Vous pouvez être sur un podcast B2B de niche où en fait, il n'y a aucun média qui existe et donc vous êtes en capacité d'aller fédérer des audiences ultra qualifiées qui ont énormément de valeur pour certains sponsors. Donc là, effectivement, ça se regarde. Mais globalement, voilà, autour de 30-35 000. Et effectivement, on regarde aussi beaucoup tout ce qui est en dehors du podcast. Est-ce que la personne a une belle communauté aussi, je sais pas, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Donc ça compte bien évidemment. Mais après, globalement, nous, on aime bien discuter avec tout le monde, vraiment, même ceux qui ne sont pas dans notre monde, dans nos univers. On a à cœur de développer le podcast au sens large. Et je pense qu'on a tous cet objectif commun. Donc on a tous intérêt à ce que le podcast au sens large se développe, quelles que soient les thématiques. Et nous, on est toujours hyper open pour discuter avec vous, vous faire des retours sur ce que vous faites, vous aider si on peut. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas.
Écrivez-leur, hein. Il y a des témoins qui sont ouverts aux différentes propositions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle des uns ou des autres? Oui. Question plutôt pour l'ACMÉ. À quel point vous développez le binôme podcast-spectacle vivant?
Je réponds rapide. C'est assez nouveau, pour le coup. On ne le fait pas, nous, hein, on ne peut pas tout faire. On travaille avec une société qui s'appelle Diligence, comme le mentionnait Laura, qui a lancé un cycle de spectacles au théâtre Le Pic, plusieurs lundis par mois, tous les 19h. Et c'est la rencontre à chaque fois, un duo entre deux podcasts. Donc nous, on l'a fait avec Où est le beau, à la vie partout, Business of Bouffe. On va voir si on va le faire sur d'autres, je pense, à partir de 2024. Mais il y a aussi la possibilité de les contacter en direct, si vous voulez, à Diligence, qui font ça.
Donc si on a déjà un spectacle, ça vaut le coup.
Ouais, je pense qu'il y a des choses à imaginer, carrément.
Alors, juste derrière vous, il y a une question.
Bonjour, je m'appelle Medina Koné. J'ai une question à tous les trois ou tous les quatre. Quelles sont les tendances des podcasts créatifs et des podcasts business qui marchent en ce moment? Les tendances en termes de thématiques et de fonctionnement, hein. Est-ce que ce sont des solos ou des groupes? Ça m'interroge beaucoup, ça.
Non, solo ou groupe, y a pas tellement ça ne fait pas tellement la différence. Moi, ce que je peux te dire, c'est que les podcasts chez nous qui marchent le mieux, c'est ceux qui apportent des choses ultra concrètes à leurs auditeurs. Des choses vraiment activables directement. Il faut que tu sortes de l'écoute d'un épisode avec des outils, des trucs que tu vas aller lire, regarder, utiliser, tester. Et c'est ceux qui ont où on a le meilleur taux de fidélisation parce que tu sais que tu vas passer... Et Génération Do It Yourself, c'est parfois 3 heures, hein, c'est une expérience. Vous sortez de 3 heures, voilà, sortez de 3 heures avec plein de choses en tête, des notes, des trucs, et vous êtes dans l'action. Et c'est ce qui crée la dépendance presque à certains podcasts, parce que voilà, on y trouve son compte au final. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal à concevoir un lancement de podcast sans vidéo. Ça a été un tabou pendant longtemps. Oui, mais avec de la vidéo, c'est plus du podcast. N'empêche que vous êtes sur un secteur ultra concurrentiel, des podcasts, il y en a des millions sur toutes les plateformes, et si vous ne vous êtes pas visible, si vous n'êtes pas visible en dehors des plateformes d'écoute, comment vous allez pouvoir ramener des gens vers ces plateformes? C'est hyper compliqué. L'un des moyens, c'est la vidéo. Alors c'est sûr que ça demande un tout petit peu d'investissement, mais quoique pas forcément, il suffit d'être malin, il y a plein d'outils maintenant avec de l'IA qui permettent de faire des belles images, le sous-titrage, c'est plus un sujet, c'est facile. Si vous ne faites pas ça, vous tirez quand même une balle dans le pied. Enfin, ça, c'est mon avis.
Tout le monde est d'accord sur la vidéo?
En tout cas, développer le multicanal. Développer d'autres canaux. Ça peut être la vidéo, ça peut être un profil Insta, un TikTok, que sais-je. Mais si vous attendez à avoir 50 000 écoutes en étant juste sur iTunes et Spotify, bon courage, quoi.
Tiens, juste, je rebondis là-dessus, c'est un exemple qui va vous parler. Le Panier, qui est chez nous, c'est l'un des podcasts, c'est le podcast de référence sur les e-commerce en France, c'est le plus gros. Et Laurent Kretz, il ne voulait pas faire de vidéo. Il a un problème, il n'aime pas ça, il ne voulait pas en faire. Nous, on lui a, avec Thomas, qui est là, on lui a dit, mais viens, on a un studio, on fait des tests. Il fait son premier enregistrement, après il y a un travail d'extrait qui est fait par l'équipe de Laurent, de chez Cosa Ostra. Son extrait sur TikTok a fait 950 000 vues. Il est accro à la vidéo maintenant, Laurent. Et on voyait que ça a eu un impact significatif sur le podcast. Souvent, on a du mal à mesurer l'impact de la vidéo sur les écoutes. Là, c'était juste flagrant, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Bon, je vous laisse continuer à réfléchir. Moi, j'en ai encore une. Est-ce que vous êtes inspiré de modèles dans d'autres pays où peut-être ils auraient un temps d'avance sur nous, les labels seraient plus développés? Est-ce qu'on a une petite vision de ce qui se passe ailleurs avec peut-être un petit temps d'avance? Ou pas du tout, je ne sais pas. On regarde souvent ce qui se passe aux États-Unis.
Moi, je n'allais pas parler forcément d'autres pays, mais j'allais parler d'autres industries. On a regardé beaucoup, en fait, ce qui se passe un peu avec le podcast, ça ressemble à plein d'égards à ce qui a pu se passer avec YouTube. Et donc, on s'est pas mal inspiré forcément des modèles qui ont été développés à cette époque-là. Il y avait des studios Beagle, il y a des Webedia, il y a différentes personnes qui sont en fait des modèles qui sont dérivés de la créateur économie, puisque tout ça reprend un peu les mêmes logiques de créateur économie. On se base d'abord sur le talent, le créateur, et ensuite on essaie de le faire s'émanciper. Je pense que c'est ça qui nous a inspiré, nous. Et après, dans l'accompagnement, on essaie de regarder aussi qu'est-ce qui a bien été fait, en fait, qu'est-ce qui a moins bien été fait, et de voir dans ces différentes industries, dans la musique aussi, et d'essayer d'adapter, nous, d'avoir... On fera aussi des erreurs, hein, sûrement, mais d'essayer aussi d'apprendre des erreurs qui ont pu être faites dans le passé, des surmenages, des choses comme ça.
Oui, la même chose, ce qu'on appelle les multi-channel networks, les MCN, qui sont des regroupements de chaînes YouTube qui bénéficient de la même force de frappe en termes de commercialisation. Ça faisait aussi partie de nos modèles. C'est un modèle qui est très développé aux États-Unis et qui a bien marché aussi en France. Donc, je dirais la même chose.
Et moi, je suis français qui vit en Suisse, donc je vais vous donner un exemple de chaque pays. En Suisse, il y avait Radio Kawa, qui est un collectif qui a été créé mi-année 2000, début année 2010. Et on s'est énormément inspiré de leur mode de fonctionnement. Et en France, il y avait Qualité, enfin, qui fait toujours un peu de podcast, mais qui a produit pas mal de podcasts, dont Studio 404 à l'époque, qui marche très bien, et qui était une autre source d'inspiration.
Est-ce qu'il y a de nouvelles questions?
On ne sait pas ce que tu fais, toi, en fait. Tu t'es pas présenté.
Bah, on prend un petit café après et je te raconte. C'est déjà la fin de cette rencontre. J'espère que la notion de label dans le podcast est désormais plus claire pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, je suppose que ma mission est réussie. Un modèle qui devrait se développer de plus en plus dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci à tous pour cette rencontre.
Merci à tous.
Merci.